Mercredi 8 février, c'est le jour de sortie du film Le Marchand de Sable de Steve Asiepo. Nous avons vu ce film en avant-première durant les 38e rencontres cinéma de Jindou et je ne suis pas ressorti indemne de cette projection. Le Marchand de Sable fait partie de ces films pour lesquels il y a un avant et un après le film avec cette histoire apportée au présent dorénavant. Steve Asiepo nous livre ici un thriller du réel captivant et à travers la trame d'un film d'action, il nous montre un aspect passé sous silence du mal logement des exilés venus chercher refuge en France. Ce film nous amène à prendre conscience également des marchands de sommeil, ces logeurs non conventionnels qui œuvrent parfois par cupidité, mais peuvent aussi le faire par solidarité. Ce film bouleverse également ce sentiment de solidarité en question, ce que l'on se sent en devoir de faire pour venir en aide, sans parfois en mesurer les conséquences. Face à cette spirale, le héros d'un jour peut alors devenir le anti-héros de demain. C'est autant de questionnements qui peuvent nous traverser à la vision de ce film quand Ndoc vous conseille vivement de voir dès sa sortie dans les salles le 8 février prochain. Steve Asiepo était venu présenter son film, vu en avant-première durant les 38e rencontres cinéma de Jindou, l'occasion pour moi de lui tendre le micro, mais avant de vous délivrer notre conversation, écoutons la bande-annonce du Marchand de Sable.
Nous avons quelques inquiétudes par rapport à votre fille. Elle s'endort en classe, très souvent, et on se demande pourquoi.
C'est qui le patron ?
Moi !
C'est toi ?
Je rentre avec Sylvia ce soir.
Elle est là tout le temps en voulant me faire passer pour un père indigne, c'est bon.
Elle s'inquiète pour sa fille.
Salut, Joe.
Tantine félicité ? Tu cherches un endroit dormir, c'est ça ?
Je sais pas où les mettre.
On va trouver une solution.
Vous êtes combien à vivre ici ?
C'est ma famille ! Je les héberge ! C'est ce qui se passe au pays quand même, non ? C'est quoi ce délire? C'est qui?
Il cherche juste un endroit pour dormir.
Mais il y a des centres pour ça?
Il n'y a pas de place dans les centres.
Ils ont quitté l'Afrique! Ils ont quitté la guerre! Toi, t'es là, tu les fais payer!
Et alors, au début, tu me dis 4 personnes, j'en trouve 20. On est là pour faire du business, t'en gagnes et puis je gagne, stop!
Oui, je suis Madame Véron, l'assistante sociale. Je suis venue observer l'environnement dans lequel vit votre fille.
Il y a beaucoup plus de familles à reloger.
Tu sais que c'est pas totalement légal, ton truc.
J'ai besoin de cette thune, moi.
Tu as beaucoup de familles, là. T'en as combien sous la main?
Ça arrive tous les jours.
Alors, ton job, là, ça se passe comment?
On visite des apparts.
Par étage, on peut facilement mettre une quinzaine de familles.
Allez, tout le monde se lève. C'est l'heure de plier bagages.
C'est pas du shit, là. C'est des familles.
T'es un putain de marchand de sommeil, c'est tout.
Je suis en compagnie de Steve Asiepo. Bonjour Steve.
Bonjour.
On a vu ton film ici hier soir au cinéma de Verdure en avant-première, Le Marchand de Sable. Super film déjà, je m'en cache pas, hein. Je ne suis pas ressorti indemne de cette projection. Pour présenter ce film, c'est un film sur le logement à Paris, enfin sur le mal logement, on va dire, sur les marchands de sommeil. Hein. Voilà. Avec un point de départ pour comprendre un petit peu. On fait un petit détour par la Côte d'Ivoire au début du film et on comprend pourquoi tant de personnes ont dû fuir la Côte d'Ivoire. C'est ça ton point de départ ?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le point de départ, c'est la guerre civile qui a eu lieu au moment des élections Gbagbo-Ouattara en 2011. Et c'est vrai que c'est un petit peu le point de départ de la fuite de plein de personnes, notamment de la famille de mon personnage principal, qui arrive un peu comme ça à l'improviste, dans une situation d'urgence en France, et crée des problématiques à mon héros qui doit les aider à se loger. Ouais.
Oui, parce que ces personnes qui arrivent ici sur le territoire français, après, voilà, il y a leur famille qui viennent les rejoindre un peu dans cette espèce d'Eldorado français, comme ils s'imaginent, j'imagine, depuis chez eux. Et donc de devoir loger tout ce monde-là, parce que il y a beaucoup de monde qui a fui la Côte d'Ivoire au moment de ce coup d'État.
Alors, c'est pas tellement... c'est les personnes qui fuyaient, ce n'était pas vraiment pour des questions d'Eldorado français, en tout cas de volonté de venir s'installer en France, et vraiment pour fuir la guerre civile, pour des questions vraiment de vie ou de mort, et y retourner finalement après, une fois que les choses se sont calmées. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a été pendant très longtemps une colonie française, et c'est pas aussi pour rien que je montre le ministre de l'Intérieur de l'époque dans le film aussi au moment des archives. Et du coup, oui, quand ils arrivent en France, oui, on a besoin de enfin, ils ont besoin d'être logés, en tout cas d'être aidés par les membres, en tout cas de leur famille ou des gens qu'ils connaissent. Et oui, il y a eu beaucoup de réfugiés à ce moment-là qui sont arrivés en France à ce moment, pendant ce conflit-là.
Alors les images qu'on voit du coup de la manière dont tout ce monde-là se loge, tout est vrai dans tout ce qu'on voit? Comment tu t'es documenté pour arriver à faire cette narration?
Alors en termes de documentation, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé à des gens qui travaillent dans le milieu social, des assistantes sociales, des associations d'aide aux réfugiés, des politiques aussi, voilà, qui devaient traiter d'une manière très concrète aussi avec les problèmes des marchands de sommeil. C'était quoi le début de ta question, excuse-moi ?
Je me demandais, est-ce que c'est vrai, vraiment ce qu'on voit, ces gens qui sont entassés dans des caves, dans des sous-sols, dans des hangars ?
Bah alors, disons que j'ai dû un peu diminuer les curseurs.
C'est encore pire ?
C'est vraiment pire. C'est vraiment pire et je pense que la fiction ne supportait pas le drame et la tragédie de la réalité. Et du coup, oui, on est complètement dans quelque chose de très, 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 très réel. Je pense que à peu près toutes les histoires en tout cas, petits moments de vie ou petits parcours et de personnages sont tous inspirés de faits réels. Oui.
Ensuite aussi, il y a les marchands de sommeil, hein, voilà, qui apparaissent dans ce film. Ça, c'est pareil. Comment t'as caricaturé ce personnage? Enfin, comment tu l'as dessiné? T'en as rencontré des marchands de sommeil pour arriver à comprendre ce qui se passe dans leur tête?
Alors, j'ai pas rencontré de marchands de sommeil. C'est un peu complexe hein, d'en rencontrer. Et après, je me suis pas mal documenté déjà sur ce qu'on trouve dans les archives, que ce soit à l'INA ou sur Internet. Après, le fait aussi d'avoir parlé avec beaucoup d'associations et de politiques qui ont rencontré ces marchands de sommeil, ça m'a permis un petit peu de croquer les différents types. Parce qu'il y a différents types de marchands de sommeil. Il y a les marchands de sommeil un peu d'opportunisme, c'est-à-dire un petit peu le tout venant, qui ont une petite pièce de libre chez eux, qui sont aussi dans une misère sociale, qui ont besoin d'arrondir les fins de mois, et qui proposent des endroits un peu insalubres comme ça à des personnes en difficulté extrême, tout en se persuadant qui finalement ils viennent en aide à ces personnes-là, parce que sinon elles seraient à la rue. Après, il y a aussi des marchands de sommeil voilà, qui sont plus ou moins organisés.
Alors, avant de parler plus précisément du personnage principal, hein, parlons justement de ces assos d'aide caritative qui viennent trouver qui essayent, on va dire, de trouver des solutions. Le portrait que tu dresses est assez juste, hein, je trouve, parce qu'on n'a pas toujours des réponses positives à donner et ce n'est pas facile de dire à quelqu'un qui est dans le besoin, non, on ne pourra pas te prendre.
Oui, à travers notamment le personnage d'Ophélie Beau, Aurore, qui incarne un petit peu cette force sociale qui essaye de venir en aide et avec les moyens que l'État leur met à disposition. Et c'est vrai que le film montre un petit peu les limites de leurs moyens humains et financiers. Et cette limite, finalement, crée un espace. Et comme j'ai l'intime conviction que l'être humain n'aime pas l'espace vide, et ben cet espace il est comblé par des gens plus ou moins bien intentionnés. Et en fait, ça crée une espèce de zone grise où il y a des marchands de sommeil qui répondent, pour le coup, à une situation d'urgence.
Alors justement, quand on peut se mettre à vendre du sommeil, comme ça, devenir un marchand de sommeil, comme tu le disais, on peut le faire au départ avec une bonne intention. C'est le cas de ton personnage principal. Alors j'ai oublié son prénom.
Joe,
c'est le cas de Joe. Mais en fait, des fois, quand on veut bien agir, on fait pas si bien que ça, quoi. En fait, malgré nous.
Bah, le problème, c'est que intrinsèquement, dans la pratique de marchand de sommeil, ne peut pas bien se terminer. On peut avoir les meilleures intentions du monde à partir du moment où on met 20 personnes dans 10 mètres carrés. Le temps fera que ça va se dégrader, les gens vont vivre dans une insalubrité extrême et ça va amener des drames. Donc même si on le fait avec toutes les bonnes intentions du monde, ça appelle à la tragédie.
Comme d'ailleurs la réponse de l'État avec les centres d'hébergement, les 115, les centres d'hébergement mixtes ou pas, c'est une réponse aussi bonne, bien intentionnée soit-elle. Ça, c'est un pansement quelque part qu'on met sur tout ça.
C'est que finalement ça déporte juste le problème parce que ces centres sont bondés et on se retrouve finalement dans exactement la même situation que dans des immeubles insalubres. Et j'ai peut-être envie même de dire, parfois, ils sont presque aussi dangereux, parce que je l'ai pas abordé dans le film, parce que bon, ça, comme je le disais, ça, des fois, ça, tout ne, on ne peut pas tout dire parce que ça ne supporte pas. Mais par exemple, c'est évoqué à un moment donné sur le fait que, bah, par exemple, pour les femmes. Beaucoup de femmes se font violer dans des centres mixtes et que c'est extrêmement dangereux pour elles. C'est aussi extrêmement dangereux pour elles d'être à la rue. Et c'est vrai qu'une femme jeune en plus qui se retrouve en situation de non-logement, c'est une situation mais tellement dramatique.
Je rajouterais même que d'être une femme en situation d'exil, seule, une jeune femme seule, c'est un parcours ahurissant en fait. Je crois que j'ai pas de mots pour définir ce parcours.
Bah oui, c'est cette histoire-là justement de personnage de Fanta qui est évoqué dans le film. Donc c'est une histoire vraie. C'est une amie qui était assistante sociale qui était confrontée à exactement cette histoire. Je raconte son histoire et clairement, elle a pas mal de bouteilles. Elle a été confrontée à beaucoup de drames humains et elle m'a dit clairement que la seule fois où elle a craqué, bah c'était là. C'était trop en fait pour elle parce que je pense qu'en tant que femme, elle s'est aussi identifiée et de se dire que dans la misère et des gens encore plus miséreux abusent encore de d'autres. Enfin, c'est un espèce de cercle un peu vicieux où là on se rend compte vraiment que oui, une femme en exil, jeune, c'est une tragédie.
Pour répondre à ces problèmes, est-ce que tu crois qu'en France, il y a assez de place quand même pour loger tout le monde quand on voit le nombre de bâtiments vides? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Le problème, c'est que en France, ça devient de plus en plus libéral. Et je pense que si les appartements vident le reste, c'est parce que ça arrange aussi les gens qui en sont propriétaires et que je pense qu'ils préfèrent les garder vides pour peut-être mieux les vendre ou peut-être même il y a des opérations de vente qui sont en cours et que finalement loger des gens dans ces appartements-là, après c'est s'exposer à ne plus pouvoir les sortir, parce que c'est vrai que c'est là où c'est très paradoxal, c'est que la loi française, elle est aussi, elle protège aussi les gens en difficulté, notamment avec la trêve hivernale. Mais comme il y a aussi des excès dans ce sens-là, et que certains propriétaires subissent aussi ce genre de choses, bah finalement, c'est peut-être les gens plus puissants, plus font plus d'argent, qui se servent un petit peu de ces faits-là, d'abus de locataires pour justifier de ne pas exposer leurs biens, et les gens qui sont en situation vraiment précaire, qui pour le coup subissent, voilà. Et de la même manière que ce sont les petits propriétaires qui subissent aussi peut-être les locataires les moins bienveillants.
Oui. Puis comme dans ces cas-là, faut quand même pas oublier de préciser, souvent on parle de personnes qui viennent d'arriver sur un territoire, c'est des primo-arrivants, ils sont pas tous dotés de papiers d'identité, et même s'ils font des demandes d'asile, c'est pas tout de suite qu'ils ont droit aux allocations logement, faut 35 ans avant qu'on puisse toucher une allocation sur le territoire. Tout ça se fait souvent sur le marché noir aussi quand même.
C'est ça, c'est vrai que la question de la migration, des réfugiés, de comment ils sont pris en charge aussi une fois arrivés en France, fait que c'est clair que ça les rend beaucoup plus exposés à ce type de commerce. Mais c'est vrai que dans le film, c'est essentiellement au début, oui, parce qu'on arrive avec ces réfugiés-là. C'est vrai que plus on avance dans le film, plus la typologie aussi de personnes qui habitent ces appartements change.
Oui.
Ça devient plus juste une communauté, ça devient vraiment un problème français.
Oui, parce que si au début on est concentré sur des personnes qui viennent de Côte d'Ivoire, au bout d'un moment, c'est multiculturel dans ces lieux d'habitation.
Oui, à un moment donné, le problème il devient juste social, quoi. Social et de classe.
Alors, c'est un film que tu aurais pu faire sous forme documentaire. Tu as choisi de traiter ça sous la fiction, voire même, on va dire, sous le film d'action, un petit peu, à un moment donné, pour nous emmener comme ça au cœur de cette histoire. Pourquoi le choix de la fiction plutôt que le documentaire?
Alors, j'avais envie de traiter le film du point de vue du marchand de sommeil. Plein de raisons. Bon, déjà, parce que j'aime bien, en fait, les films avec beaucoup d'ambiguïté, quand les psychés sont un peu complexes. Donc ça, c'est vraiment un goût personnel. Mais c'est aussi parce que... pour des questions de représentation, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie qu'on rentre au cœur de cette famille issue de l'immigration subsaharienne, de comprendre aussi pourquoi en fait cette famille-là se retrouve à héberger plein de personnes déjà dans leur propre appartement. Donc on peut avoir l'image voilà très très négative des familles d'Afrique qui habitent des appartements un peu surpeplés et très rapidement avec tous les clichés qui vont avec, mais il s'agirait de comprendre aussi pourquoi des fois ces familles-là se retrouvent dans ces genres de situations. C'est parce que ce sont des situations d'urgence et que ces personnes-là se mettent en fait aussi en danger, ne sont pas sur leur confort en fait, et un sentiment de solidarité et d'humanité et de communauté très fort qui fait que ça les amène à accepter justement cette précarité, même finalement dans leur confort à eux, parce que la famille de Joe, finalement, c'est une famille française. C'est une famille française avec des origines, mais c'est une famille française. Et tous les enfants de cette famille ont été élevés à l'école de la République. Voilà. Et c'est vrai que j'avais envie qu'on puisse, en fait, que le spectateur puisse être à la place de cette famille-là et comprendre. Et après, dérouler le drame.
Je pense quand même que pour comprendre un petit peu comment vit cette famille, il y a aussi une histoire de classe sociale, peu importe l'origine d'où l'on vient sur la planète, mais ici aussi, dans les milieux défavorisés, des fois, on est obligé un peu de se surentasser dans des petits logements. Hein. À Paris, c'est beaucoup le cas aussi déjà.
Oui, c'est sûr que si cette famille avait beaucoup d'argent,
elle serait pas là, quoi, en fait.
La question se poserait pas finalement. Mais et encore, je suis même pas sûr finalement. Mais bon, c'est clair que le champ des possibles est moindre, fatalement. Et l'argent, oui, répond à beaucoup de problèmes.
Ouais. Alors après aussi, j'imagine la manière de dérouler le film, la partie où tu as dû t'amuser un peu sur la partie d'action, cet immeuble en flammes, comme ça. Tu as des souvenirs comme ça de tournage, parce que c'est ton premier long métrage, celui-ci. Hein. Comment ça s'est passé pour arriver à faire tout ça?
Alors, c'est vrai que moi, je ne me le suis pas vécu en me disant je vais faire des scènes d'action. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce sont des séquences qui font écho à la guerre qu'on fuit ces personnages, la guerre que je monte en archive d'ailleurs. Et surtout, c'est juste cette réalité-là, c'est-à-dire que mon film parle de la question des marchands de sommeil, d'immeubles surpeuplés et d'une expulsion. À un moment donné, la question s'est posée de le raconter en off et juste d'avoir le résultat, de rester dans quelque chose de très très social. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais ça continue à rester finalement, on continue à rester à l'extérieur. Et je voulais vraiment qu'on soit avec, d'une manière totalement organique en fait, avec ces familles-là pour comprendre le drame en fait et le danger que représente. Et je trouvais que le seul moyen, en tout cas que moi je voyais, en tout cas le plus, je ne vais pas dire efficace, mais en tout cas le plus évident, c'était que le spectateur participe en fait à cette expulsion, tous les problèmes et drames que ça amène.
Alors dans les personnages aussi qu'on a le colonel qui lui aussi est issu de l'immigration, j'ai l'impression quand on le voit, c'est un autre rôle qu'on va jouer dans ce grand jeu là en fait, de se retrouver l'intermédiaire issu de l'immigration entre les exilés et le marchand de sommeil. Comment tu l'as dessiné lui ce personnage? Parce qu'il fait peu. Il n'est pas gentil, au bout d'un moment, on l'aime quand même. J'ai pas envie non plus de spoiler tout le film.
Le colonel, c'est un petit peu le personnage qui... Moi, je le vois comme un entrepreneur. Mais l'entrepreneur qui a grandi finalement dans un endroit où son champ des possibles n'était pas non plus énorme. Quoi. Moi, j'aime bien dire notre environnement, l'environnement où on grandit, nous définit énormément et que peut-être ce mec-là naît dans une belle campagne ou une belle banlieue ou dans une famille très cultivée, serait devenu un chef d'entreprise tout aussi véreux finalement, parce qu'après c'est sa nature, mais en tout cas tout aussi dominant, il ferait pas des magouilles quoi. Et ce personnage là oui c'est un personnage assez flamboyant qui est l'ami d'enfance de Joe, qui représente aussi une partie du passé de mon personnage principal il incarne une partie de la vie de Joe une partie de la vie à laquelle il avait tourné dos et bon qui finalement embrasse de nouveau oui.
Alors certains pourraient dire aussi que tous ces gens soit un peu dans l'illégalité, ce qui va rajouter un peu une caricature comme ça de l'exilé qui vient ici, qui fait des choses illégales. Mais en même temps, qu'est-ce que l'État laisse comme choix à ces personnes en les empêchant de travailler de manière correcte. Quelle autre solution ont-ils aussi?
Alors là, tu parles du personnage du colonel.
Je parle du colonel et de tout ce qui se passe autour, de ce que doit faire Joe aussi à un moment donné. C'est au début, il livre des colis, mais il est obligé de virer vers l'illégalité pour pouvoir gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de toute cette grande famille élargie.
Alors ça, c'est avant tout un choix aussi. Ce ne sont pas des victimes. Ce sont des choix. Je pense qu'ils ont choisi aussi la facilité. Ils ont le droit. Hein, on a le droit de vouloir que ce soit plus facile. Mais Joe, à un moment donné, justement, a décidé, lui, de moment de sa vie, de choisir, on va dire, pas la facilité, mais ce qui est bien. Et quand il essaye de faire ce qui est bien, de toutes les manières possibles, que ce soit avec sa fille, avec son ex, avec sa famille élargie, ben, en fait, il se heurte finalement à des grandes difficultés. Et quand il ne trouve plus de solution et que ça devient de plus en plus urgent, ben, finalement... Encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais sur le colonel, c'est que son champ des possibles, ses opportunités, ben finalement, elles sont dans l'illégalité parce qu'il a grandi avec ça autour de lui. Mmh. Et ben, il enfonce la porte et voilà.
Mmh. Moi, je pense vraiment que l'État pourrait avoir un rôle à jouer là-dedans, s'il accompagnait un peu plus, s'il aidait un peu plus et s'il donnait plus de, on va dire, de possibilités. Je le pense vraiment.
Oui, après, moi je pense que c'est un petit peu éloigné de mon film, mais je pense que le personnage, par exemple, du colonel ou de Joe dans sa partie de sa vie un peu plus dark représente très peu de ce qu'est quelqu'un de banlieue. Et finalement, beaucoup de ces personnages-là, en fait, sont mis en scène, que ce soit dans les films aussi, à la télé, tout ça, mais en fait, ils représentent très peu. Et j'avais aussi à cœur de montrer d'autres personnages aussi issus de la diversité, comme le président de l'association, et comme sa sœur qui est agent immobilier. C'est montrer aussi que autour de lui, il avait aussi ces possibilités-là, Joe. Donc, il y a un choix, c'est-à-dire que c'est pas un personnage tout blanc, tout rose. Il a fait des choix et pour le coup, il les assume et il les paye.
Oui, de toute façon, quand on décide d'accompagner comme ça, on va dire ce public-là, on se retrouve devant des choix à faire régulièrement qui sont pas toujours dans les clous. Ça, c'est la réalité, ça.
Non, c'est vrai.
Alors, mais je me pose quand même une question, si t'as de l'espoir, toi, parce que quand on voit ton film... Pour toutes ces personnes-là qui sont en quête juste d'une vie plus digne, plus confortable, je me demande, comment on fait pour s'en sortir ?
Ben, je me suis beaucoup posé la question, justement. Je me suis beaucoup posé la question. Et non, c'est pas que j'ai pas d'espoir, c'est que j'ai pas de solution.
Oui, voilà.
Donc, pas de solution. J'en ai vraiment pas. C'est parce que, par moment, ben, Joe, ben, je trouve que... Quand il vient en aide à ces personnes-là, certes, c'est illégal, mais en fait, pour la personne qui est sortie de la rue en plein hiver avec ses enfants, bah en fait, la question de se dire est-ce que c'est légal ou pas, on s'en fout, en fait. C'est juste, j'y suis plus et je suis bien content de plus y être et de pouvoir sortir mes enfants de la difficulté, même un danger de mort, quoi. Donc, je sais pas. J'ai vraiment pas de solution. Mon film, il pose que des problèmes, il donne aucune solution. Et vraiment, c'est... Je témoigne, je ne saurais pas dire comment on peut faire. Après, j'ai peut-être une petite idée, je l'évoque un petit peu aussi au début du film, en montrant ces hommes politiques, je pense que ils sont à l'origine du problème et c'est eux qui résoudront le problème ou pas. Alors si ça, j'ai de l'espoir que le problème soit résolu de ce côté-là, pas beaucoup, mais voilà.
J'ai plus d'espoir dans des associations comme le DAL, comme le droit au logement par exemple, que dans le gouvernement.
Oui, ben, de toute façon... Tout se joue au niveau local, je pense. Hein, tout se joue au niveau local et c'est pour moi les héros d'aujourd'hui. Ce sont ces personnes-là qui consacrent définitivement leur vie à aider les autres, qui sont impliquées émotionnellement, qui sont en contact constamment de cette misère. Je pense qu'ils ramènent beaucoup aussi à la maison de tous ces problèmes-là. Et je suis persuadé que ces personnes-là, même si on leur donnait plus de moyens humains et financiers, ne pourraient pas résoudre le problème parce que le problème il est politique. Mais clairement, si on peut en tout cas adoucir un petit peu, rendre un peu plus confortable leur manière de travailler, leur donner plus de moyens, ce serait exceptionnel, oui. C'est la direction à prendre.
Toi, tu fais du cinéma pour ça? Pour nous soulever ces problèmes-là, nous amener à nous poser des questions?
Oui, clairement. Je pense que quand on voit le film, on voit très bien que j'ai aussi une volonté de représenter aussi beaucoup d'acteurs noirs. Voilà, je me sens très concerné par les questions de représentation. Et clairement, je sais qu'on n'est pas énormément de réalisateurs noirs en activité, à agir, en tout cas dans le cinéma français. Et donc du coup, quand on prend la parole et qu'on a la possibilité de la prendre, elle devient précieuse. Et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit... remarquable, en tout cas qu'on puisse l'entendre. Quoi.
On parle d'un cinéma Black Power, tu sais, ouais. Voilà, d'une création dans ce sens-là. Ouais. Mais alors là, quand je vois ton film, comme tu dis, voilà, de la création, on va dire, fait par des Noirs en France. Ouais. Mais ce film-là, il me dit, putain, on est loin d'avoir gagné encore la cause de l'humanité, en fait, et de la fraternité. Ça me fait penser un peu à ça, quoi, quand même.
Bah, c'est bien, je trouve. C'est bien. Ça veut dire que ça, finalement, ça, oui, ça nous fait nous poser des questions. Après, je pense que oui, le cinéma américain pose aussi les mêmes questions. Après, ils en ont d'autres, hein. Et ils ont d'autres problèmes. Nous, on a les nôtres. Après, il y a beaucoup de passerelles, mais moi, je trouve que ça commence à changer. Je trouve que ça commence à changer, qu'il y a beaucoup de réalisateurs noirs qui notent rien que cette année. Hein. Il y en a pas mal qui vont sortir des films, et je trouve ça génial. Et ils commencent à aller dans des grands festivals internationaux, à l'étranger, surtout à l'étranger. Hein. Ce serait pas mal qu'on commence à être dans les grands festivals français. Mais c'est super, ça va aussi, je pense, créer des vocations, se dire que voilà, peut-être donner envie à d'autres jeunes, plus jeunes, de faire ce métier-là, parce que voilà, on se dit bon, bah, on peut. Et finalement, moi j'aime bien dire que toutes nos voix finalement se complètent entre elles, mais aussi complètent la voix de d'autres réalisateurs, même français, blancs, de issus de la campagne, de classe sociale plutôt basse ou même plus haute, mais tout ça se complète, et finalement à la fin c'est le cinéma français qui s'en sort grandi, parce que on a une espèce de cartographie du moment peut-être un petit peu plus précise qu'avant. Où finalement
c'est universel ce que tu racontes. Ouais, pour moi, ton histoire, je peux vivre la même dans un pays africain si l'on tourne, quoi. Je peux me retrouver à Abidjan et vivre la même histoire.
Je pense pas.
Non, tu crois pas.
Je pense pas que tu vivras la même chose si tu vas à Abidjan. Je pense que si tu vas à Abidjan, tu vas être bien accueilli.
Et qu'ici tu crois qu'on vous accueille pas bien alors de la même manière.
Toi, tu penses quoi?
Ce que j'en pense quoi là-dessus? Je vais te raconter un souvenir de mon voisin congolais qui a vécu dans l'univers qu'on voit tout au long de ton film. Moi, ça m'est très précieux en plus d'avoir vu ce film pour encore plus comprendre son histoire. 35 ans, il est resté comme ça là-haut. Et là, il est dans le Lot depuis le mois de janvier. Et il m'a dit qu'il aimerait bien retourner chez lui pour leur dire « Ne venez pas en France parce que vous ne serez pas bien accueillis, vous retrouverez SDF ». Je suis complètement d'accord avec ça.
Après, oui, c'est pas simple, en fait. C'est pas simple parce que, bon, il y a plein de sociologues... de philosophes, même afro, hein, Frantz Fanon par exemple, même si bon, ça commence à dater un petit peu, mais ça reste quand même très contemporain, sa parole reste quand même très contemporaine, et qu'il y a clairement, on va dire, une perception de l'homme et de la femme noire en Europe qui est problématique. Et clairement, je te cite un seul exemple, tu vois, ce qui s'est passé en Ukraine. Quand tous les Ukrainiens fuyaient pour aller en Pologne et que les Noirs ne pouvaient pas passer. Et qu'il fallait d'abord que tous les Ukrainiens blancs passent. Ça raconte beaucoup. Ça raconte beaucoup de choses de la perception qu'on a en Europe de l'étranger. Mais en fait, l'étranger, en fait, il y a une hiérarchie dans la perception de l'étranger.
Et là, on s'est vraiment rendu compte avec l'Ukraine. Hein.
C'est ça. Il y a une hiérarchie de... Et je pense que... tout en bas de la hiérarchie, dans la perception, je pense que le noir, il est pas mal, quoi.
Oui,
plutôt bien placé.
Oui, oui. Et on a le noir et on a l'arabe en bas qui sont bien tout en bas. Ils sont,
Je comprends ça, ouais. Il y a une classification de l'étranger, il y a un subventionnement dans la création pour suivant ce qu'on fait comme aide aux étrangers ou pas. Hein. Pendant un temps, quand on aidait les Afghans, on avait de bonnes subventions. Maintenant, il faut aider des Ukrainiens pour avoir de bonnes subventions. Ça blesse un peu.
Bah, c'est un petit peu aussi le cynisme de tout ça. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui est à la mode aussi, ce qui fait l'actualité aussi. Ça se trouve, demain, ce sera, à un moment donné, c'était aider le Rwanda. Peut-être demain, ce sera de nouveau le Darfour. Et le jeu de l'humanitaire, en fait, c'est un jeu que moi, je trouve très dangereux. Et voilà. On n'est pas très loin de ce business-là, de ce que je raconte en termes de dans mon film, mais c'est un jeu très dangereux, l'humanitaire, mais encore une fois très concret pour les gens qui reçoivent l'aide, quoi.
Très important pour en tout cas ceux qu'on a besoin malgré tout.
Mais oui, c'est tout le drame, en fait. C'est tout le drame, c'est que quand l'argent n'a pas d'odeur ni de couleur, quand on le reçoit, ça répond à une situation d'urgence et voilà.
Alors, et ce film, comment il va tourner après derrière? Quelle va être son aventure? Parce que bon, il va y avoir son aventure en cinéma. Mais après, ça reste, c'est un outil militant pour moi, ce film. Il est même très fort. Hein. Hier soir, on a tous un peu du mal, on en parle encore ce matin. T'as réussi à tous nous chambouler ici. Ce film, comment c'est quoi ton terrain de diffusion idéal? T'aimerais l'amener jusqu'où?
Ben oui, j'aimerais bien que bon, il sortira le 8 février 2023, mais c'est vrai que j'aimerais bien, oui, qu'il soit diffusé dans les associations, aussi que des politiques puissent le voir, aussi chez les jeunes, dans les milieux culturels, très jeunes. Ouais, j'aimerais bien qu'il soit vu par le plus de gens possible, que les gens sont, en tout cas, je ne vais pas dire se mettre à militer, mais en tout cas, le ressentent dans leur chair. Moi, mon objectif, c'était vraiment ça, c'est qu'on ressente le film dans sa chair, d'une manière organique. C'était vraiment ça, c'était toute ma mise en scène tend vers ça. Donc du coup, qu'on le garde encore après, que le film continue à vivre en nous, c'est oui, c'est un très beau compliment que tu me fais là.
Et après, dans le process aussi, voilà, bon, on va essayer de le dire sans trop spoiler. Et à un moment donné, il y a une explosion dans ce film. Moi, presque, j'aurais préféré que ça s'arrête là, à un moment donné. Tu arrives à créer cette sensation d'étouffement de la situation. À un moment donné, on est là, on est oppressant. On n'en peut plus, on est transi. Il y a une explosion. Et encore après, mais tu viens nous en rajouter une couche. Tu viens nous en remettre un peu plus pour nous montrer que le problème, il continue, en fait. Voilà ce que je disais tout à l'heure, quand je te demandais si tu avais de l'espoir. Ça, cette mise en scène, bravo. Enfin, je tiens à te le dire, bravo quand même. De nous tenir comme ça, en haleine.
Bah, c'est vrai que j'avais un... Bon, c'est pas très cool de ma part, mais... je voulais épuiser, oui. J'avais un sentiment... Je voulais épuiser, parce que le cercle vicieux... quand on a un problème, en fait, il en appelle d'autres. Et je pense que quand on met le pied dans un engrenage, ça s'arrête jamais. On prend, et je voulais vraiment que, quand on regarde le film, qu'on ait cette sensation-là de se prendre. Et je peux comprendre, hein, qu'à un moment donné, ça puisse être un petit peu insoutenable, qu'on ait envie que ça s'arrête, et que finalement, on se dise, mais pourquoi ? Mais parce que s'il y a des gens qui vivent ça, mais mille fois pire.
Mais oui.
Mille fois pire, ça, c'est une fraction, et on est confortable, assis sur une chaise. Ça dépend où on le verra, mais en tout cas... on est dans un confort à un moment où on voit le film. Et nous, on sait que ça s'arrête. Mais je voulais, voilà, que peut-être pendant 1h46, on puisse, en tout cas, avoir peut-être juste un aperçu de ce qu'est être un réfugié en France.
Nous étions avec Steve Achiepo à propos de son film vu en avant-première durant les 38e rencontres cinéma de Jindou, Le Marchand de Sable, un film qui sortira dans les salles dès le 8 février prochain. Vous l'aurez compris, ce film, Le Marchand de Sable, est un coup de cœur pour Antenne Doc. Alors, pas d'hésitation, à vous, à présent, d'aller le voir.
Alors, et quel sera le prochain sujet dans lequel tu vas nous amener? T'as une idée déjà des autres histoires que t'as envie de raconter?
Oui, après, je suis en train d'écrire en ce moment, donc quand j'écris, ça... Voilà, ça... C'est... J'en parlerai pas.
En tout cas, moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir la prochaine histoire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Steve, en tout cas.
Merci, c'est gentil.